Eh bien, j'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un homme fatigué. Depuis quelques jours, il trouve la vie pesante. Oh, rien de grave, rien de dramatique, juste une angoisse diffuse et trop de choses à faire. Cette petite impression quand même que la vie est une punition. Mais cette décision qui va tout changer et va lui redonner du baume au cœur, il a failli ne pas la prendre. Cette décision, c'est de prendre son vélo et d'aller rouler. Heureusement, ces mots de Conan Doyle lui sont revenus. Quand ton moral est bas, quand le jour te paraît sombre, quand l'espoir n'y est pas, grimpe sur un vélo sans penser à autre chose qu'au chemin que tu empruntes. Et c'est ce qu'il a fait. Il a grimpé sur son vélo et ce fut déjà une manière de prendre les choses en main. Ça a commencé par grimper sec, mais au moins, cette punition, c'était lui qui se l'infligeait et non la vie qui la lui a imposée. Et puis après, la récompense, la délivrance, l'ivresse retrouvée, c'était à lui qu'il la devait, même s'il eut alors envie, paradoxalement, de remercier la vie. L'angoisse en est étalée maintenant tandis qu'il pédalait, plein de gratitude pour le paysage et pour son corps aussi. Avancer à la force de ses jambes, avancer pour ne pas tomber, ce fut peut-être de sentir son corps à nouveau qui lui fit tant de bien. D'arrêter de penser aussi, quoique pas tout à fait, parce qu'il se dit quand même que le vélo offrait une belle métaphore de la vie. Cette alternance de moments où on fait son effort, où on pédale dur, le dos courbé, les muscles des cuisses en feu, et de moments où on se laisse porter, glisser, comme des moments de grâce, de récompense. Et si le vélo nous faisait du bien, parce qu'il nous rappelle que le plaisir se mérite, que la joie de glisser se conquiert. Quoi de mieux que le vélo pour nous dire cette vie faite de haut et de bas. La vie a beau être dure, ingrate, injuste, il suffit parfois d'enfourcher son vélo et alors elle redevient une balade. Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir un romancier et journaliste qui se voulut d'abord coureur cycliste et pratiqua même ce sport, un tout petit peu en compétition et puis en amateur. Longtemps directeur du Monde, auteur de 16 romans, couronné notamment du prix Femina, du prix des Libraires ou du Grand Prix des Lectrices de Elle, il fut même un temps commentateur du Tour de France pour France Télévisions. Auteur d'un magnifique dictionnaire amoureux du vélo chez Plon, Éric Fotorino est avec nous ce matin sous le soleil de Platon, qui risque d'être aujourd'hui davantage celui d'Antoine Blondin et de Fausto Coppi. Et en sa compagnie, en leur compagnie, nous allons nous demander ce qu'il advient de notre rapport au monde lorsque nous enfourchons un vélo. Qu'est-ce qui change alors? Pourquoi le bonheur nous semble-t-il de nouveau possible lorsque nous nous mettons à pédaler?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour Charles Pépin.
Merci d'être là.
Avec joie.
Vous êtes venu en vélo?
Eh oui, sous le crachin ce matin.
Avec un petit Brompton pliable, c'est ça?
Exactement, qui est donc gardé à l'accueil de Radio France depuis déjà longtemps. Comme tous les mercredis, je viens faire une chronique ici.
Ouais, vous êtes
et
chez
donc
vous.
Je replie le vélo et il reste là.
Alors, je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous pliez et dépliez le vélo comme un journal, finalement.
Mais oui, c'est très curieux, puisque le 1 que j'ai fondé, cofondé il y a 11 ans, ouais. Il se plie et déplie en 3. Et un jour, je me dis, tiens, est-ce que mon inconscient a parlé avec ce vélo que je possédais déjà depuis quelques années avant?
Alors, on va entrer dans notre sujet. Est-ce que pour vous, le vélo, plus qu'un moyen de transport ou même un sport, c'est une manière d'être au monde?
Alors je crois complètement, même si je n'en ai pas eu conscience immédiatement, évidemment, mais je crois que pour moi, une journée sans pédaler, c'est une journée un peu triste, un peu vaine.
Ouais.
Et même justement quand je trouve que la vie est un peu dure, que j'ai pas envie de faire certaines choses, bon, je prends mon vélo, je finis par me forcer quelquefois aussi à prendre mon vélo, et là, au bout de quelques minutes, ça y est, je regrette pas de... ce que j'ai fait. C'est comme pour la lecture, on disait il n'y a pas une heure de lecture qui ne vous guérit pas de tous vos chagrins. Eh bien, le vélo, il vous guérit de la vie.
C'est
quand
vrai.
Elle est un peu dure.
Le vélo ne vous a jamais déçu?
Alors, le sport cycliste a pu me décevoir, bien
ouais.
sûr, parce que le dopage, parce que tout ça. Mais le vélo, non. C'est vraiment un compagnon extraordinaire de tout moment de ma vie, c'est-à-dire des petits matins, des fins de journée, des moments pour aller à la mer. Quelquefois sans but, d'ailleurs. Hein, on peut faire du vélo pour faire du vélo, tout simplement. Et puis, quelquefois, tout simplement, pour rejoindre des amis, pour aller d'un point à un autre, se baigner. Par exemple, l'été, je suis près de La Rochelle, je passe le pont de l'île de Ré, c'est la seule côte de la région, hein. Et donc, c'est formidable d'aller se balader comme ça.
Alors, Éric Fotorino, j'ai entre les mains votre très beau dictionnaire amoureux du vélo sorti chez Plon. Je vous lis, Éric Fotorino. Depuis toute la vie et pour toute la vie, je pédale. Sur les routes et des routes qui vont de l'enfance à l'âge qu'on croit adulte, avec un petit vélo dans la tête qui n'en finit pas de me faire tourner en rond sur la terre toute ronde, comme si la vocation première de la bicyclette était d'arrondir les angles du monde. Tel Pérec, jadis, dressant l'inventaire des lieux où il avait dormi, je pourrais fournir la liste des routes et chemins sur lesquels j'ai roulé. Route ventée de Vendée, route pentue de la Chalosse, et plus encore des Pyrénées, route un peu vague de l'Atlantique, tantôt dans le froid, tantôt sous les hachures de la pluie, souvent aussi dans le soleil dont l'aiguille des rayons venait et vient encore se prendre dans le cerceau de mes roues, plus brillante que le coureur que je ne suis plus, sauf en rêve. Mon parcours cycliste, écrivez-vous Éric Fotorino, est une ligne de vie sur une machine à remonter le temps. Plus je pédale et plus je me souviens. Magie de la bécane avec sa roue libre qui me ramène en arrière pendant que j'avance, lentement certes, mais avec entrain. Éloge premier, fondateur éternel, le vélo est un jeu d'enfant qui dure longtemps.
Oui, ces lignes-là, c'est vraiment une vérité pour moi, ou plein de vérités que j'ai rassemblées pour écrire ce livre. C'est vrai que pour moi, le vélo, c'est à la fois oublier ce souvenir, c'est-à-dire oublier ses ennuis du moment, oublier que la vie peut, qu'on a mal aux dents, des choses comme ça, oui. Et puis, surgissent des fantômes, mais pas des fantômes macabres, des moments de votre vie, comme ça, et avec des personnages, des visages. C'est une camaraderie, le vélo. C'est sur la route, on fait des rencontres, comme ça.
Donc le vélo, c'est proustien.
C'est assez proustien, oui, oui. Je ne sais pas si Proust lui-même était un grand pratiquant.
À mon avis, non.
Mais non, parce qu'en plus, le souffle devait lui manquer un peu. Mais il avait un souffle littéraire qu'il a bien compensé.
Alors, Éric Fotorino, vous êtes romancier, journaliste, vous avez longtemps dirigé Le Monde, notamment, vous avez fondé... plus tard, le 1, Zadig, oui. Beaucoup de choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce dictionnaire amoureux du vélo, il y a en fait une autobiographie déguisée, puisqu'on voit vos premiers pas en vélo au début, on voit comment le matin très tôt, vous allez au Monde en vélo et en traversant Paris. Oui. Et donc finalement, cette histoire du vélo raconte un peu la vôtre.
Oui.
Et je voudrais maintenant vous demander si... ce vélo n'est pas un résumé, au fond, de la vie, notamment dans l'alternance de moments un peu difficiles, de moments où on fait un effort, de moments où on souffre, et puis de moments qu'on a, au fond, mérités, comme des récompenses.
Oui, je crois que c'est vraiment ce fil rouge, oui, tendu dans ma vie, c'est vraiment le vélo, ces deux roues, comme j'écrivais, qui abolissent les angles du monde, qui rendent les choses peut-être plus douces, même s'il y a de la dureté dans ce sport. C'est vrai que pour moi, il y a à la fois une sensation de liberté incroyable que j'ai ressentie avant même peut-être de me le formuler, quand j'avais une dizaine d'années, qu'avec mes parents on s'est installé à Nieul-sur-Mer, c'est-à-dire dans la banlieue de La Rochelle, mais les villages, c'est cette campagne, la mer, le bleu de l'océan, etc., les champs jaunes de colza, tout ça c'était à trois coups de pédale. Et donc évidemment, j'ai ressenti, mais de façon incroyable, cette liberté, avec ce paradoxe quand même que c'est une chaîne de vélo qui vous emmène vers la liberté.
C'est
donc
ça.
On est enchaîné, mais au fait, comme vous l'avez dit, il y a la roue libre qui vous permet de vous libérer. Et puis, c'est vrai que la récompense, quand vous arrivez en haut d'une côte ou en haut d'un col, que vous avez souffert pendant 2 heures en moyenne, un col de 20 km, ben vous souffrez 2 heures, même quelquefois un peu plus, il y a une sorte de récompense. On se dit, mais moi j'ai des amis qui me disent, mais pourquoi tu te fais si mal? Et je me suis dit, oui, c'est peut-être absurde de faire ça. Et un jour, quand j'ai pris le départ d'une grande course de professionnels, j'étais moi-même déjà journaliste, j'étais plus du tout un coureur.
Mais j'allais en parler, vous l'avez quand même fait. C'est quelle course déjà ?
C'était le Midi Libre en 2000.
Ouais, c'est pas rien.
C'était pas rien.
Et surtout, je précise pour que les gens comprennent, parce que tout le monde ne le sait pas, vous avez voulu être professionnel. Pendant votre adolescence, vous vous destinez à ça. Vous avez renoncé pour plein de raisons, notamment la peur du dopage.
Oui.
Et c'est plus tard, je dirais, vers la quarantaine, que vous y êtes revenu. Donc c'est aussi un art de bien vieillir que vous nous enseignez.
Oui, vous savez tout, Charles. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'était un retour comme les Trois Mousquetaires 20 ans après, vous voyez.
Ouais.
Et à 40 ans, et on m'a demandé, mais pourquoi vous faites ça. Et j'ai écrit une phrase qui m'a dégringolé de la plume, j'ai dit « retarder l'instant du crépuscule ». C'est-à-dire, effectivement, être encore dans la vie, être encore dans le jour et une forme de lumière.
Il y a des très jolies citations partout dans votre dictionnaire amoureux du vélo, notamment celle-là de René Fallet. Elle m'a beaucoup troublé. « Ceux qui font du vélo savent que dans la vie, rien n'est jamais plat. »
C'est un philosophe, René Fallet. Mais oui, c'est vrai, parce que même, vous savez, quand vous roulez dans Paris, alors je ne parle pas de Montmartre, tout le monde sait que ça monte pour aller à Montmartre. Mais moi, quand je viens de mes bureaux de Saint-Lazare jusqu'à Radio France, que je prends les pistes cyclables, etc., je connais le grain de la route, par cœur, c'est-à-dire je sais les pavés, je sais les endroits où le bitume a été un peu refait, où la route est un peu rapiécée, on dirait des soulages, on dirait que vous roulez sur des soulages quelquefois, parce que il y a du gris, du noir très intense, du noir passé, parce que le temps, la pluie, les intempéries.
Ouais, je comprends passés. Pourquoi vous aimez le vélo, si vous avez l'impression de rouler sur un soulage.
Ah, c'est, n'est-ce pas? Et je connais des endroits où la route râpe, vous savez, comme une langue de chat, quoi. Il y a quelque chose qui résiste, et donc c'est vrai que ça ressemble à la vie. Quelquefois, ça vous paraît tellement facile, et quelquefois, un rien vous paraît un obstacle insurmontable.
Alors, est-ce que vous pensez que la vie ressemble au vélo aussi, parce que pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer?
Oui, ça, je pense, c'est même chez moi une sorte de devise non dite. Ne pas tomber, ça veut dire continuer à d'avancer, de pédaler. J'aime bien, le geste du cycliste comparé, par exemple, à celui du coureur à pied. Moi, j'ai toujours du mal avec la course à pied, j'ai un point de côté très vite, donc je ne sais pas bien respirer. Mais surtout, vous frappez le sol. Quand vous courez, quand vous pédalez, il y a une sorte d'harmonie, effectivement,
cette
rondeur de douceur. Alors, évidemment, si vous mettez un très gros braquet, vous allez avoir mal partout. Mais c'est quand même de la souplesse, le vélo. C'est quand même une forme de légèreté.
Alors, comme vous, qui êtes cycliste et romancier et journaliste, il y a des cyclistes qui sont aussi philosophes. On va écouter à ce sujet Guillaume Martin, mais qui est réellement un cycliste du Tour de France et qui a réellement écrit des livres de philosophie. Guillaume Martin.
Dans nos vies, on est toujours dans la réflexion, toujours dans le ressentiment, le regret ou l'anticipation, et on n'arrive pas à être présent au monde, et le cyclisme en particulier, quand on court ou quand on fait du vélo, au bout d'un moment, on arrive à un état un peu de latence ou d'ivresse, où on ne se pose plus de questions, on est là sans être là, on est conscient, mais en même temps, je peux faire des dizaines et des dizaines de kilomètres sans m'en rendre compte, dans une forme d'inconscience. C'est un état déjà très agréable, qui peut sembler un peu idiot parce qu'on n'est pas dans la réflexion, mais qui procure un vrai bonheur.
C'était Guillaume Martin. Mais alors, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que si je me faisais un peu l'avocat du diable, c'est de la fuite aussi?
Ah ben oui, bien sûr qu'on fuit les ennuis, les pesanteurs. Vous savez, le mot le plus fort, je trouve, moi, dans le vélo, surtout dans la compétition cycliste, c'est le mot s'échapper. On s'échappe. Un échappé. Je me souviens, quand j'étais gamin, que mon père m'emmenait faire des courses en Vendée, en Charente, etc. Il attendait pas tellement que je gagne, mais si je gagnais, il était très heureux. Mais il voulait que j'aie fait une belle course, et une belle course, pour lui, c'est... Est-ce que tu t'es échappé? Est-ce que tu vas t'échapper? T'échapper de quoi? De la condition de tous les coureurs qui ont un numéro dans le dos, un dossard.
Du peloton, du troupeau.
Et donc ça, c'est vrai pour moi. Il y a des courses où je me suis fait engueuler par mon père parce que il trouvait que j'avais pas assez forcé. Et quelquefois, je m'échappais, même si je gagnais pas. Il était heureux de ça.
Mais alors, s'échapper, c'est nietzschéen. Au fond, s'échapper du troupeau, devenir une singularité, jouer sa carte perso, tenter l'aventure, c'est ça?
Et oui, c'est ça. C'est être comme un individu, vraiment l'individualité. Je n'ai pas la citation en tête du Don Quichotte, Cervantes, quand il dit et enfourcha sa monture qui lui donnait le chemin de l'aventure. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'imprévu. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le vélo, c'est une route que je ne connais pas, une petite route. Tout d'un coup, je m'engage.
Et alors, à propos d'imprévu, il y a des trucs très drôles dans votre dictionnaire amoureux du vélo, notamment Simone de Beauvoir qui raconte comment Sartre fait du vélo. On va voir qu'on peut avoir une lecture existante essentialiste du vélo. Alors je lis Simone de Beauvoir, que vous citez dans le merveilleux dictionnaire amoureux du vélo chez Plon. Sartre préférait de loin la bicyclette à la marche, un peu comme vous, Éric Fotorino, dont la monotonie l'ennuyait. À bicyclette, l'intensité de l'effort, le rythme de la course varie sans cesse. Il s'amusait à sprinter dans les côtes. Je m'essoufflais loin derrière lui. En plat, il pédalait avec tant d'indolence que deux ou trois fois, j'ai atterri dans le fossé. Je pensais à autre chose. Bah oui, c'est Sartre, me dit-il. Il aimait comme moi la gaieté des descentes, et puis le paysage bougeait plus vite qu'à pied. Moi aussi, je troquais volontiers mon ancienne passion contre ses nouveaux plaisirs.
Ah oui, mais oui, vous savez, c'est vrai qu'à pied, le paysage change moins vite. Je me souviens de Marguerite Duras disant, pour voir les paysages changer, il faut faire demi-tour, parce que c'est pas le même chemin qu'on a emprunté, on n'a pas les mêmes choses en vue. Mais Sartre, quand il dit « je pensais à autre chose », voilà, ça je crois que c'est un fondamental dans le vélo. Moi je ne sais pas à quoi je vais penser quand je vais pédaler, mais quelque chose va surgir. Alors c'est pas des pensées très soutenues, c'est des pensées un peu effilochées, parce qu'il faut quand même être très vigilant, faire attention aux voitures, faire attention à ce qu'il y a devant nous. Donc, mais il y a une sorte de rêverie. Et un des plus beaux titres, très drôle, d'Antoine Blondin, il en fait beaucoup dans l'équipe, à propos d'Eddy Merckx, il est arrivé premier dans un état second. Moi je trouve ça extraordinaire, parce qu'on est souvent dans un état second.
S'échapper, être premier dans un état second, c'est une esthétique et une éthique du vélo. Est-ce qu'on pourrait pas aussi se demander si, quelque part, le vélo ne réconcilie pas les deux grandes idées du bonheur qu'on trouve en Occident? Je fais un tout petit point d'histoire des idées, je serai rapide. Il y a d'un côté les anciens, quoi, pour qui le bonheur est un état. Le bonheur, c'est être au monde, c'est appartenir au cosmos. Et puis les modernes, pour lesquels le bonheur est moins de nager dans le bain du bonheur qui serait le cosmos, mais de se jeter à l'eau, d'aller conquérir, d'aller inventer, d'aller réparer le monde. Et j'ai l'impression que le vélo, c'est les deux. D'un côté, vous l'avez dit, on est au monde, on est dans la nature, ou même dans
la
ville. Et de l'autre côté, on avance et on part à la conquête.
Oui, alors moi, c'est vous qui êtes savant dans ce domaine philosophique. Moi, je n'avais pas mesuré combien, effectivement, le vélo était une charge de bonheur totale. Mais c'est vrai qu'on tourne les jambes et quelque chose dans notre tête se met à tourner aussi. Et je ne sais pas dans quel sens ça va, d'ailleurs. Quand je disais c'est une machine à remonter le temps, c'est vrai que c'est un bonheur peut-être différé qui surgit tout d'un coup sur la route.
C'était David Bowie et Modern Love.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Eric Fotorino sous le soleil de Platon et nous parlons de votre dictionnaire amoureux du vélo et plus généralement de votre vie, de votre parcours, de votre chemin. Cycliste, vous avez commencé, vous êtes devenu après directeur du Monde, romancier, couronné de multiples prix. Et d'ailleurs, pour bien vous montrer que c'est un dictionnaire du vélo écrit par un écrivain avec une très belle écriture, je vais lire un autre passage très, très touchant où on comprend que quand vous dirigiez le Monde, vous traversiez Paris de bonne heure vers 6h du matin en vélo et on va comprendre quelque chose de très important sur le rapport au monde propre au vélo, dont on n'a pas encore parlé. Je vous lis Eric Fotorino. Longtemps, j'ai pédalé de bonne heure, encore proustien, juché sur un vélo pliant, déployé comme un albatros dans la nuit finissante. Paris s'éveillait. Mon journal m'attendait, donc le monde que vous dirigez. L'aventure commençait au coin de l'avenue de l'Opéra, au sortir du train de banlieue où j'avais bridé ma monture. Dans la fraîcheur de 6h du matin, je m'offrais une lente glissade jusqu'à la rue de Rivoli, un salut à la pyramide du Louvre, puis s'insinuait la Seine, enjambée sur un reflet de lune ou sous les éclairages majestueux d'un pont assoupi auquel s'ajoutait, comme la mouche du coche, le vaisseau tremblotant de ma loupiote au guidon. Un peu plus loin, dans ces aubes naissantes, il m'arriva de voir s'illuminer pour moi seul les globes de la librairie José Corti, d'entendre la musique cristalline de la fontaine Médicis, côté jardin, et aussi des cris des mouettes. Car c'est bien connu, le vélo ne rompt pas le silence, il le magnifie dans le bourdonnement des roues libres et des chaînes huilées. Cycliste matinal, à toi le chant de la fontaine, à toi le rire des oiseaux marins.
Ben oui, c'est vrai que traverser Paris tôt le matin à bicyclette, c'est entendre les bruits du monde, entendre les bruits de la ville, sa respiration. Et c'est vrai que la fontaine Médicis, pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé, parce que dans la journée, on ne peut pas l'entendre. Il y a la circulation, il y a le bruit, la rumeur de la ville. Mais quand il est tôt matin, vous entendez ce filet d'eau, comme ça. Et je trouvais qu'il y avait une poésie là-dedans. Je me souviens, quelquefois, c'était novembre, je mettais une sorte de pèlerine, de grand caouet jaune, et un matin, comme ça, un marron est tombé sur ma pèlerine et je me dis, tiens, c'est l'automne. Et effectivement, vous sentez passer les saisons sur un vélo.
Et ça devait être d'autant plus intéressant qu'après, vous retrouviez le fracas du monde, le bruit oui. du monde, notamment avant d'être directeur du Monde, vous avez couvert en tant que grand reporter des zones de violence, de guerre, de problèmes politiques. Donc ça devait être bizarre, ce contraste entre la paix du matin, les mouettes oui. qui arrivent à Paris,
c'est vrai,
et puis après, le vacarme du monde.
Je crois que c'est en ça que je suis le plus reconnaissant au vélo. J'ai trouvé cette activité, ce sport, on peut dire, un peu par hasard. Mais depuis, je remercie jamais assez parce que ça me permet des interstices de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, vous imaginez, quand vous dirigez un journal comme Le Monde, c'est quand même assez dense du matin au soir. Vous avez un casque sur la tête pour partir à vélo. Vaut mieux que vous le gardiez dans la journée, d'ailleurs. Mais c'est vrai
que... Vous faisiez les conférences de rédaction avec le casque
Il n'était pas loin. Il n'était pas loin avec le vélo. Et mes confrères regardaient ce vélo toujours avec un peu d'étonnement. Mais c'est vrai que vous êtes d'une certaine manière protégé. Alors, faut faire très attention sur un vélo, mais vous êtes protégé de tout ce qui vient mordre un petit peu, à apporter les désagréments de la vie. C'est cette petite demi-heure que j'avais chaque matin et cette petite demi-heure le soir quand je rentrais chez moi, personne ne pouvait me téléphoner, j'étais libre.
On va écouter Jacques Gamblin, justement, un autre amoureux du vélo.
Il faut que je vous parle d'elle, de mon grand amour, la deux roues. Que je chevauche depuis tant d'années sous tous les cieux. Rouler, rouler à tout va, rouler à tout vent, pousser sur le quadriceps, faire remonter les vapeurs de mes désirs et de mes impatiences pour les traduire en énergie positive. Prince du bitume, je gagne du temps, de l'énergie, de la fantaisie des chemins et des itinéraires, me joue des étoiles, des bastilles et des concordes aux heures de pointe, fait bisquer les nerveux, nargue les prétentieux et réinvente la ville.
Jacques Gamblin, donc le vélo pour lui, si je comprends, c'est changer les soucis du monde en énergie positive.
Et oui, et c'est vrai que ce qu'il dit à la fin, quand il nargue les uns et les autres, c'est vrai que Joe Dassin l'avait chanté, il y a un grand philosophe, il y a ouais. très longtemps, à Paris à vélo, on dépasse les autos. C'est vrai qu'il y a une sorte de jouissance, de plaisir, quand tout le monde est arrêté, de rouler. Et moi, je me faufile. Alors, effectivement, je passe un peu partout. J'ai eu l'habitude de frotter dans les pelotons, donc j'ai pas tellement peur sur un vélo.
Et vous racontez d'ailleurs que vous brûlez les feux rouges, vous arrêtez pas au stop.
Il m'arrive.
Ça m'a fait plaisir, ces pages.
Il m'arrive, parce qu'il faut être aussi honnête. C'est vrai que je ne respecte pas complètement, mais je n'ai jamais mis qui que ce soit en danger.
Donc mais c'était une époque différente aussi, où il n'y avait pas... Voilà, vous étiez un des premiers, enfin, c'était pas
oui,
pareil.
Exactement, ça a changé. Donc c'est vrai que les ennuis, on les met vraiment à distance. En fait, ce qui nous guette le plus dangereux dans une ville, c'est la portière. La portière qui s'ouvre. Ça, j'ai toujours une hantise des portières, parce que tout d'un coup, bah, l'automobiliste ne fait pas gaffe, il sort de sa voiture et on est là.
Alors, vous avez évoqué la philosophie, mais quand on est philosophe, on aime les distinctions conceptuelles. Et je ne voudrais pas qu'on soit trop confus sur l'usage des termes. Et je voudrais distinguer avec vous le vélo et la bicyclette.
Oui.
Vous citez, il y a plein de très belles phrases, hein, très belles citations dans le dictionnaire amoureux du vélo, Philippe Delerme qui écrit la chose suivante. « C'est le contraire du vélo, la bicyclette. Une silhouette profilée mauve fluo dévale à 70 à l'heure. C'est du vélo. Deux lycéennes côte à côte traversent un pont à Bruges. C'est de la bicyclette. Mmh. » Alors expliquez-nous.
Non, mais alors, bon, Philippe Delerme a raison parce que c'est très instinctif. Le vélo, c'est vrai que c'est presque un mot technique, c'est le diminutif de vélocipède. Ouais. Donc, on rentre dans l'histoire, dans l'histoire de ce qu'a été le vélo comme moyen de locomotion, mais aussi comme instrument sportif et d'exploit. La bicyclette, d'abord, le mot est féminin. Il y a quelque chose de plus doux, de plus gracieux dans la bicyclette et de plus léger. Un vélo, c'est alors qu'un vélo peut être très léger. Il faut aussi, dans la philosophie, accepter les paradoxes. Mais c'est vrai que la bicyclette a quelque chose de plus poétique là où le vélo est plus technique et sportif.
Alors, je suis pas trop d'accord avec cette distinction. Je vous le dis franchement, parce que moi, ce que j'aime dans la philosophie du vélo, c'est que justement, même quand c'est sportif, même quand c'est dur, même quand on a des habits un peu ridicules, fluo, etc. C'est quand même une balade. Et c'est ça, je crois, la métaphore que j'ai envie de poser. D'ailleurs, c'est une question qui m'est assez souvent revenue le matin, le samedi matin, où je réponds aux questions des auditeurs sur France Inter. Et j'avais plusieurs fois dans l'année, écoutez, c'est marrant, des questions sur le vélo.
Ah, c'est drôle.
Pourquoi la vie est plus belle à vélo, etc.
Oui.
Et en réfléchissant, il m'a semblé que ce que nous dit le vélo, c'est que la vie, évidemment, est dure. La vie, évidemment, est injuste. Mais parfois, elle est quand même une balade, malgré tout. Pas qu'on soit dans le déni ou l'évitement de la difficulté, mais qu'en enfourchant son vélo, il y a quelque chose qui nous dit qu'au fond, les choses ne sont peut-être pas si graves. Et dans ce cas-là, pour revenir à la distinction, le vélo est une bicyclette, c'est ça que je voulais dire.
Alors, vous savez, il y a un film magnifique qui s'appelle Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Cette bicyclette qui est vraiment dont dépend cet homme pour aller travailler, pour avoir ne pas être au chômage, c'est un engin de travail. Donc ça pourrait dire, on pourrait dire, c'est pourquoi c'est pas un vélo. Mais non, c'est une bicyclette. Donc je pense qu'en effet, c'est presque interchangeable, c'est presque réversible.
Eh ben, c'est ce que je voulais entendre.
Quand on partait au matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait François, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer.
C'était Bertrand Belin avec sa belle voix qui fait une belle reprise. Je voudrais qu'on aborde une autre question qu'on n'a pas abordée qui est peut-être importante. C'est la question de l'humilité. On parle souvent de ce champ lexical, on dit, le vélo te rappelle à ta limite. Est-ce que vous le vivez comme ça? Ou est-ce que paradoxalement, on serait quand même plus dans l'humilité si on courait sur le sol?
Sur le sol, voilà. Oui. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, en effet, quand vous faites des longs parcours, des parcours difficiles, vous avez beau vous sentir fort, costaud, etc. À un moment donné, la route, la pente, le soleil ou la flotte ont raison de vous, ça vous rend plus humble parce que vous êtes effectivement tout petit dans ces éléments-là. Mais en même temps, pour ce qui me concerne, j'y ai tiré non pas de l'orgueil, mais j'y ai tiré une sorte de volonté de faire. Donc ce point de vue-là, ça m'a renforcé le vélo énormément. Le gamin que j'étais à 10-12 ans, qui était quand même un peu chétif, qui était un peu timide, un peu tout ça, je crois que le vélo, au contraire, il m'a donné une sorte d'appétit de la vie et sinon de confiance en moi, mais en tout cas d'appétence pour avancer.
Confiance en le vélo, en tout cas.
Voilà.
Je vous lis justement Éric Poterino. « Aussi loin que s'accroche le fil de ma mémoire, c'est à la potence d'un guidon chromé. Le vélo était muni de 4 roues, 2 larges et alignées pour avancer, 2 petites et latérales pour ne pas tomber. Dans les albums de famille endormie, je sais qu'il est là quelque part, ce premier destrier qui m'offrit, sans jamais le reprendre, l'élan vital de la liberté. Il était rouge comme les ballons de l'enfance, et avec lui, j'étais assuré de voler. Car rouler, fut ma manière de voler. Envahi par ce sentiment unique et inoubliable d'être libre. Je ne savais pas dire le mot « liberté » que j'en éprouvais déjà le goût. Ai-je su pédaler avant de savoir marcher ? J'en mettrai mes freins à couper. Une certitude, c'est en apprivoisant ma petite reine que j'ai marché plus droit dans la vie et plus loin.
Oui, alors évidemment, ça renvoie très directement à ma petite biographie, c'est-à-dire j'ai été un enfant adopté et par un homme de Tunisie qui aimait surtout le foot, lui. Ouais. Mais j'étais pas très bon au foot, mais il a vu qu'à vélo, je m'accrochais. Et je pense que ça lui a fait plaisir. Il s'est dit, bon, à travers ça, il va pouvoir s'endurcir sans devenir dur. C'est ça la vie. Je trouve qu'il faut s'endurcir sans devenir dur.
Et c'est toute votre histoire qu'on reconnaît en filigrane. Alors vous avez beaucoup écrit dans tous vos romans, ouais, cette recherche sur votre famille, donc votre père qui vous a abandonné, votre père adoptif, votre sœur. Et c'est très touchant parce qu'on voit tout ça à travers les roues du vélo, quelque part. Oui. Et notamment, aussi, cette manière de... Bah, peut-être, tous ces moments de vélo sont peut-être des moments où le passé revient, aussi.
C'est ça. Quand je dis machine à remonter le temps, c'est vraiment ça. Alors, je corrige, mon père ne m'a pas vraiment abandonné, mais il a été... Pardon, ouais, conduit, forcé à le faire, ce qui était un peu différent parce qu'il était juif et marocain, etc. C'est une autre histoire. Mais c'est vrai que le vélo, il a rassemblé le puzzle, j'allais dire, de mon histoire. Et surtout, je dirais, il m'a permis d'aller chercher plus loin. Quand on est cycliste, on veut toujours aller plus loin. Je me souviens, je faisais des brevets au début de 50 km, puis de 80 km, puis 100. Ouais. On faisait des brevets de nuit, on mettait des sacoches devant le guidon, avec un transistor d'ailleurs, pour écouter la radio, et une carte Michelin pour ne pas se perdre complètement. Ben, l'idée d'aller plus loin, je pense que le vélo, il m'a vraiment appris ça comme une éducation. C'est-à-dire, va plus loin. Tu as fait 100 km, tu vas aller plus loin. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui, pour moi, est très importante. Quand j'ai fait de la course avant de passer professionnel, et je ne suis pas passé professionnel, j'étais d'abord pas assez fort, mais je me souviens, je faisais des courses de 120, 130 km, alors que jusque-là, j'avais fait seulement 80, 90, 100. Et je me souviens, certaines courses, j'avais un coup de barre à un moment donné, je n'arrivais plus à voir devant, je m'accrochais, et puis à un moment donné, ça revenait. C'est-à-dire que je me sentais en pleine forme, comme si on venait juste de prendre le départ. Et donc, ce qu'on appelle chez les sportifs le deuxième souffle. Et ça, c'est quelque chose qui a été une leçon pour moi, c'est que quand tu crois que t'es vraiment, comme on dit dans le vélo, tu pédales avec les oreilles, ben à un moment donné, si tu t'accroches, eh ben, tu vas y arriver, tu vas reprendre les roues et peut-être tu vas gagner.
Vous croyez que c'est toujours vrai, même quand on fait une enquête difficile, par exemple ?
Oui, moi je crois que... Moi, tant que la ligne n'est pas passée... rien n'est joué. Voilà. C'est vraiment pour moi la leçon du vélo.
Est-ce que le vélo vous a appris à écrire ?
Ça, c'est une super question. Et je crois que oui, il m'a appris à élaguer. Il m'a appris à couper les phrases comme on coupe les virages. Il m'a appris à essayer de trouver le geste juste, le mot juste. Être juste quand on écrit, c'est pareil à vélo. Là aussi, un exemple très simple. Quand vous montez l'Alpe d'Huez, par exemple, 21 lacets, quand il y a un replat, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans le virage du lacet, ça devient presque plat si vous le prenez vraiment à l'extérieur. Et là, vous avez 6 ou 7 coups de pédale pour prendre votre bidon, le mettre à votre bouche, ne pas vous étouffer, le reposer et repartir en prenant le guidon à deux mains. C'est ça, la précision. Il faut pas que ça dure plus longtemps. Et ben, l'écriture, pour moi, c'est ça.
Changer les choses, comme on change l'eau des roses. Mon amour oublie ça. finir en beauté. Tu ne fais pas les choses à moitié, sans vouloir jeter des fleurs. Y'a comme une envie de te pardonner, de me faire pour toi belle à crever. Tout y est, mais plus le cœur.
Vanessa Paradis, bouquet final.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Claude, je vais battre le record du monde de l'heure à Mexico.
Rien que ça.
Je vais laisser une trace dans l'histoire du vélo. Je veux devenir plus qu'un bon coureur, Claude. Je veux devenir un nom, une référence, comme Bobet ou Coppi. Je veux que quand on évoque le nom des Lambert, on pense à une victoire. À un champion. Et pas à un fromage. Tu comprends?
Tu sais combien il est, le record de l'heure ?
49,41. Et je sais que je peux faire mieux.
C'était un extrait du vélo de Guylain Lambert. Être un champion et pas un fromage.
Ah oui, c'est extraordinaire. Vous savez, c'est un des plus beaux films, et au sens le plus vrai, sur la course cycliste. C'est difficile de tourner sur une course cycliste, rendre crédible. Mais ouais. Poulvord, dans ce film, était extraordinaire. Je me souviens, on avait fait sur cette antenne, à l'époque, à la sortie du film, une émission ensemble, et je lui avais dit combien j'avais été sidéré de voir combien il ressemblait à un coureur, vraiment.
Ouais. Alors, on va revenir un peu sur vous, sur votre parcours, à la lumière de cette question du vélo, parce que j'avais dit tout à l'heure, et c'est quand même très surprenant, qu'après avoir notamment dirigé Le Monde, après avoir été longtemps journaliste, et alors que vous meniez votre vie de romancier, eh ben vous avez commenté le Tour de France, oui. Je crois, pendant deux ans,
pendant
en
deux
2015,
ans.
En 2016. Ça devait être une expérience complètement dingue.
Oui, c'était fou parce que, d'abord, j'étais complètement submergé par ce cirque, 4000 personnes tous les jours, comme une petite ville qui se déplacerait dans la ville, ouais. Et de voir les coureurs, d'avoir l'ambiance, d'être tout d'un coup replongé dans l'enfance. Quand j'avais 12, 13 ans, j'ai regardé les tours de l'époque avec Eddy Merckx, avec Luis Ocaña, avec Bernard Thévenet, etc. Ouais. Puis plus tard avec Bernard Hinault. Et là, ils étaient là. Alors, ce qui était drôle, d'ailleurs, c'est Bernard Hinault, il était là, mais il n'était plus là comme champion cycliste. Il était
comme
là,
commentateur avec vous.
Exactement, je le croisais, il était dans la direction du tour. Pareil, Bernard Thévenet. Donc, c'est vrai, c'était toucher du doigt ses idoles et de voir ce que je me disais, ce que mon père d'ailleurs me disait quand j'étais gamin, quand je voyais un coureur qui avait l'air très fort avec des jambes musclées et tout, il dit mais il a deux jambes comme toi. Ça voulait dire tu peux quand même essayer d'aller te frotter à lui.
Vous étiez un bon commentateur ?
Je ne sais pas si j'étais bon, mais en tout cas, j'aimais faire ça. Et j'aimais notamment parler avec Jalabert parce que quelquefois, il se passait une scène de course et je l'interrogeais. Je redevenais journaliste. On disait, mais quel braquet il a, vous croyez, etc. Donc oui, il y avait quelque chose de vivant, en tout cas, dans notre échange.
Et Éric Fotorino, est-ce que vous êtes un bon admirateur ?
Oui, je pense que moi j'aime admirer parce que c'est un jour Michel Serres qui m'a expliqué ça. Il m'a dit, pour se construire, on a besoin de figures à admirer. Et pour moi, les cyclistes, je les admire. Je parle dans mon dictionnaire notamment de Fausto Coppi. Et c'est vrai que Coppi, pour moi, c'est une tragédie grecque et en même temps, c'est un sujet d'admiration inépuisable.
Le prestigieux Coppi démarre et rejoint Le Guigui. Avec une facilité déconcertante, le campionissimo franchit seul le sommet du Galibier. À 70 à l'heure, il fonce vers l'Italie, passe la frontière et, acclamé par Stavroul, remporte la plus surprenante et la plus magnifique des victoires qui lui donne 19 minutes d'avance sur le second classement général et en fait d'ores et déjà le virtuel vainqueur de ce 39e Tour de France.
Et ben le voilà, Faustocopie.
Vous êtes fort là. Vous savez, c'était Malaparte qui disait le vélo est un squelette extérieur. Quand on regarde Copie, on a vraiment l'impression qu'il est soudé à son vélo et qu'il est le vélo. Il avait les poumons comme deux bonbonnes d'oxygène, et il avait des jambes très très longues, des chassiers, un buste assez étroit. Et c'est l'albatros, quoi. C'est-à-dire que quand il marche avec ses godasses de cycliste, il est pas beau, on a l'impression qu'il est emprunté. Quand il est sur son vélo, il vole. Il y a eu comme ça des coureurs admirables. Je pense à Jacques Anquetil, une année, il est dans un contre-la-montre et il va rattraper Poulidor qui est parti 3 minutes avant lui. Et à un moment donné, le directeur sportif de Poulidor lui dit « Écartez-vous, Raymond, regardez passer la caravelle ». Et en effet, Anquetil passe comme ça, comme un oiseau.
Alors c'est assez bizarre cette esthétique des cyclistes, parce que pour vous dire franchement, j'ai un peu de mal parfois, vous décrivez, donc il y a évidemment une entrée Faustocopie dans votre dictionnaire amoureux du vélo, et justement, là je comprends mieux, parce que vous dites que l'albatros, on se souvient du poème de Baudelaire, il est un peu ridicule quand il est sur terre, ses ailes de géant l'empêchent de marcher, mais il redevient le prince dans les airs. Et dans le cas de Faustocopie, vous le décrivez avec une grâce infinie lorsqu'il se met à pédaler, notamment lorsqu'il monte un col, mais je vous avoue que moi, je suis moins fan du Tour de France, je vois plutôt quelqu'un qui galère, je vois quelqu'un qui est voûté, je vois quelqu'un qui nous montre son dos. Je trouve que les corps des cyclistes ne sont pas des très beaux corps. Vous voyez, c'est particulier quand même.
C'est vrai. Alors, bon, moi, je suis...
Vous avez un regard d'amoureux, mais...
Oui, moi, je dirais pas complètement ça. C'est vrai que quelquefois, les maillots les desservent un peu. Le maillot, le cuissard, les chaussures de torero, toutes ces choses-là, c'est un peu une sorte de bric-à-brac. En revanche, ces grands coureurs, quand ils grimpent les cols, alors, effectivement, on a l'impression qu'on les a battus, qu'ils vont vraiment pousser avoir leur dernier souffle dans le lacet du Galibier ou du Tourmalet. Mais il y a une aisance. Moi, j'ai un respect particulier, une admiration particulière pour les grimpeurs, ceux qui s'élèvent.
Je vois ça.
Et effectivement, parce que c'est tellement incroyable de pouvoir accélérer dans la montagne. Il y a eu des gens comme Lucien Van Hymme, comme Pantani. Alors, effectivement, c'est des tragédies aussi, souvent. C'est des gens qui n'ont pas très bien fini.
Et
je crois qu'ils ont quand même une grâce que n'ont pas nécessairement les coureurs, les rémouleurs de bitume, comme on dit, qui sont sur la route et qui font du plat.
Mais Éric Fotorino, si vous aviez réussi à être le cycliste que vous vouliez être à 14 ans, vous n'auriez pas écrit tous ces romans, vous n'auriez pas dirigé le monde, vous n'auriez pas fondé le 1, vous n'auriez pas fondé Zadig.
Vous savez,
est-ce que ça n'a pas été votre échec le plus foutu ?
Charles, moi j'ai une philosophie toute personnelle, c'est la philosophie du non-regret. Je ne regrette absolument rien. Donc effectivement, je n'aurais pas fait tout ça probablement si j'avais couru le Tour de France. Mais imaginez que j'ai porté comme Van Der Poel là maintenant, qui va porter le maillot jaune que son grand-père n'a jamais porté, Raymond Poulidor.
Ouais.
Ben, je crois
hier, il a gagné une étape.
Il a gagné, il a pris le maillot jaune. Ben, moi, je sais que j'ai rêvé du maillot jaune, vraiment.
Et d'ailleurs, il y a aussi un très beau chapitre sur une entrée sur la chute des maillots jaunes.
Et oui, parce qu'il y a eu des chutes terribles, celle de Luis Ocaña notamment, en 71, dans le col de Mente. Il y a un orage, le temps est vraiment tellurique, et il va se relever sous l'orage, sous la pluie. Et puis Joop Zoetemelk, un coureur hollandais, lui fonce dedans, lui perce le thorax, et c'est fini. C'en est fini pour le maillot jaune.
Finalement, vous avez renoncé, pourquoi ?
Parce que j'étais pas assez fort.
C'est vraiment que ça, parce que vous aviez peur
du
dopage.
Non, c'est pas que
aussi,
ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que déjà, si j'étais objectif, je gagnais des courses régionales, des belles courses.
Pas mal quand même.
Surtout dans les côtes. J'aimais bien les côtes. J'étais champion de poursuite. J'étais champion sur la piste. Bon, mais j'étais un petit champion. Et si j'avais vraiment voulu devenir professionnel, je pense qu'il aurait fallu aussi que je passe par d'autres méandres, notamment le dopage. Et ça, je pense que
c'était à l'époque un passage obligé.
Oui. On peut dire ça.
Alors, heureusement, vous avez échoué comme cycliste, et c'est pour ça que nous avons tous vos magnifiques livres entre les mains. Le dernier que vous avez sorti porte pour titre « Des gens sensibles ». Il est sorti en mars dernier, et il raconte, c'est un roman, l'expérience de du monde de l'édition dans les années 90 avec un trio amical. Et il y a notamment un très beau portrait d'une attachée de presse.
Ouais.
Alors je vais lire pour qu'on retrouve votre style. Et c'est très émouvant, cette figure. Elle est très généreuse et elle prend sous son aile un jeune auteur pour le faire exister dans un monde qui l'ignore. Clara était mon aînée d'une bonne dizaine d'années. Ce qui frappait dans son visage, c'était la blessure. Les cernes gonflées de mauvais sommeil, de pas de sommeil du tout. Le passage des alcools et des nuits sans repos, du champagne, beaucoup de champagne, et des insomnies, des trahisons, des fidélités déçues, des mauvais souvenirs qu'elle matraquait de bulles millésimées. Clara avait été sublime. Ce qui survivait de son éclat était bouleversant. Cela vous prenait là, au creux du ventre, et vous serrait jusqu'à la gorge, de voir son air espiègle et sombre à la fois, au bord de la détresse par instant, et de l'entendre se battre pour imposer ses hauteurs, en l'occurrence, vous. Elle tournait en rond dans ses petites jupes légères et colorées qu'elle portait au-dessus du genou. Plantée sur ses longues jambes fuselées de collants noirs, même en été, elle martelait le sol de ses talons trépignants, impatiente. Le cœur de Clara ne battait que pour la littérature. Elle ne cherchait pas à plaire, encore moins à séduire. Elle était belle d'avoir renoncé à l'être.
Mmh. Ouais. Oui, c'est un texte que j'ai commencé à écrire en l'an 2000. Lorsque la vraie Clara a disparu.
Des gens sensibles, chez Gallimard.
Et que l'autre comparse de ce trio, Saïd, a aussi disparu. En fait, c'était la première fois que j'écrivais un roman sur des gens qui ont vraiment existé. C'est-à-dire Rachid Mimouni et Chantal Lapix, cette attachée de presse qui était incroyable. Parce que lorsqu'elle trouvait dans un texte quelque chose qui, pour elle, était prometteur, elle voulait remuer ciel et terre pour que le texte soit connu. Et j'ai bénéficié de cette passion. Et je voulais, c'était vraiment une dette que j'ai voulu rendre, donner, honorer auprès d'un souvenir.
Exactement, c'est ça qui est beau. Ça aurait pu être un récit. Pourquoi vous êtes un roman ?
Parce que beaucoup de choses sont inventées. Et d'ailleurs, je crois que c'était le plus bel hommage que je pouvais faire à ces deux personnes, d'en faire des personnages. Et le temps a passé, le temps m'a roulé dessus. Hein, 25 ans ont passé. Et donc, il fallait, évidemment, le souvenir s'effiloche. Et donc, je pensais à eux comme des personnages de roman.
C'est un très joli roman, très sensible, parce que c'est son titre, mais aussi, je crois que ça parle de la générosité, j'ai l'impression.
Oui.
Ça raconte comment on peut parfois être au service des autres, parce qu'on aime ce qu'ils font, sans souci d'ego, sans ramener la couverture à soi.
Exactement. Et là, vous voyez, on parle rarement des attachés de presse dans la littérature, alors qu'elles sont tellement importantes. C'est des passeuses. Je dis souvent attachés de presse au féminin, parce que c'est le plus souvent des femmes. Et elles sont là, et elles essayent de montrer le meilleur d'un texte d'un romancier.
Et puis aussi, elle l'invite dans un monde, et il y a une scène trop marrante où elle annonce votre nom un peu comme à la cour du roi, et vous êtes tout jeune, et vous rougissez, et on a l'impression que c'est plus dur encore que de monter un col. Quoi.
Oui, je ne savais pas où mettre, parce qu'effectivement, elle voulait m'imposer à des critiques littéraires, et je lui disais, mais laisse-les, ils liront bien s'ils en ont envie. Mais non, elle me dit, non, il faut t'imposer. Et évidemment, depuis 25 ans, à chaque fois que je publie un nouveau roman, je me dis, qu'est-ce qu'elle aurait pensé ? Qu'est-ce qu'elle aurait fait ?
C'est aussi un livre sur la fidélité, je trouve.
Oui.
La fidélité au passé, la fidélité à ce qui compte.
C'est vrai. Et puis cet écrivain algérien, Saïd, qui était Rachid Mimouni, qui est mort de chagrin, qui est mort de maladie sans se soigner, qui était poursuivi par les islamistes. Évidemment, c'est un écho avec Boualem Sansal aujourd'hui, dont je regrette terriblement qu'il n'ait pas été gracié en fin de semaine dernière.
Merci beaucoup Éric Futorino, je recommande votre livre « Des gens sensibles » aux éditions Gallimard, et bien sûr aussi votre dictionnaire amoureux du vélo, dans lequel on retrouve des entrées géniales un peu partout, et puis par petites touches, votre autobiographie déguisée.
Oui.
Gamelle, pelle, chute, image sépia, insectes. Ah oui, parce que ça c'est aussi très drôle, ce moment où on se prend des insectes dans la bouche quand on fait du vélo. Et c'est valable aussi pour les urbains.
Hein. Sûrement.
Et vous dites qu'il faut l'accepter, que c'est ça la condition du cycliste. Pour vous remercier de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon, je vais essayer de résumer la philosophie de la vie qui a été la vôtre. Alors elle est particulière. D'abord, je dirais une philosophie de l'effort et de la grâce. Une philosophie dans laquelle on comprend que la grâce, ça se mérite et que l'effort est bon parce que l'effort nous dit que la vie est dure, mais qu'en même temps, elle peut être une balade, ce que nous rappelle aussi le vélo. On a aussi entendu quand même, ça je ne m'y attendais pas, une philosophie nietzschéenne, parce que le peloton, il faut en sortir, et on se rappelle de votre père, adoptif pour le coup, si j'ai bien compris, qui vous disait, vas-y, échappe-toi, joue ta carte singulière. Et finalement, c'est ce que vous avez fait toute votre vie, comme journaliste, en fondant des journaux, comme romancier, essayer de trouver votre style singulier, de vous échapper du peloton. Quelque part, ce moment où on s'échappe, c'est le moment où on est à la fois plus soi-même, et à ce moment-là, plus soi-même que jamais. Enfin, bien sûr, j'ai entendu quelque chose de proustien, ça non plus, je m'y attendais pas, un amour de la réminiscence, et d'ailleurs, je cite aussi quelque chose de très joli, vous citez Émile Zola, « J'aime la bicyclette pour l'oubli qu'elle donne, j'ai beau marcher, je pense, à bicyclette, je vais dans le vent, je ne pense plus, et rien n'est d'un aussi délicieux repos. » Eh bien, c'est ça que j'ai entendu chez vous aujourd'hui, une philosophie à la fois du souvenir et de l'oubli, je dirais donc bergsonien. Merci beaucoup Éric Futorino.
Merci Charles.
C'était un plaisir. Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Alicia Vulot avec la technique Laurent Baudouin. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 9h exactement sous le soleil de Platon.